Oasis Diop, l'homme des îles.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
En sol majeur.
Rare, discret, mélancolique, méticuleux. What else? Ah si, auteur, compositeur, interprète qui ne se prête pas à tous les feux. What else? Difficile à dire. Son Wolof, il l'a troqué contre des jeux de langue et de guitare. Sa vie intérieure est pleine de tiroirs, remplie d'amour pour le 7e art, le Japon et la méditation. Frère de, mais aussi père de, bref, la famille Diop est tentaculairement puissante. Son Sénégal frémit, il a raison, et sa France blêmit aussi, elle n'a pas tort. Car c'est un homme des îles qui fait de Saint-Louis sa terre sénégaloise. Tu entres. Je ne sais rien sur Oasis, juste que l'amitié est sa seule religion, qu'il est là avec ses histoires de glace et de gazelle, nouvel album, et qu'il écoute parfois en sol majeur en cuisinant. Bonjour Oasis.
Bonjour.
Mais Oasis, qu'est-ce que vous cuisinez? C'est une question cruciale pour un musicien.
Alors, peut-être pour une question tout simplement de survie, me considérant toujours comme un étranger à Paris, bien que j'ai quand même, avec mes savates, ciré les trottoirs de Paris pendant si longtemps. Mais je pense que le réflexe de faire la cuisine, surtout à l'heure où votre émission passe, je pense que c'est mon africanité qui me pousse à faire la cuisine, c'est de revoir les femmes chanter en faisant la cuisine.
Cordon bleu ou pas, ça je sais pas finalement. Vous êtes au fourneau, Oasis Diop, pendant presque une heure en sol majeur.
Parler de souvenirs, parler du passé. Parler du passé. Quand la terre rêvassait, tous nos rêves volés par le progrès. Progrès. Vous en avez rêvé, nous l'avons inventé. À quoi bon rêver? Oh, oh, oh. Si on peut tout posséder, déjouer les pièges du progrès. Parler sans jamais laisser parler, toujours inventer.
Vous aimiez tant que ça parler, Oasis Diop. Troisième titre de votre nouvel album De la glace dans la gazelle. Cette chanson parlée où vous moquez apparemment les obsédés que nous sommes de ce côté-ci de la planète, de la météo.
Oui, oui, l'attente du soleil, ou du moins l'attente de la météo, c'est vraiment quelque chose d'assez cocasse ici. Et moi qui aime bien les images même de la télévision, parce que j'aime les images tout court, parce que je viens un peu du cinéma. Et c'est vrai que cette messe de la météo, où finalement tout s'arrête, parce qu'on voudrait savoir si le soleil sera là. Mmh. Alors nous qui avons passé notre temps à fuir le soleil, au point de venir nous réfugier ici en Europe, voilà.
Tous nos rêves volés par le progrès,
oui.
Écrivez-vous. De quel progrès vous parlez ?
Mais en réalité, évidemment, je ne parle pas du progrès, je parle de l'illusion de progrès, c'est-à-dire finalement toute cette euphorie, toute cette histoire de changer toujours l'appareil qu'on a parce qu'il y a un autre appareil, les appareils qui se bousculent à nos portes, et puis la course vers le meilleur. Et on se rend compte que les sociétés deviennent de plus en plus tendues à cause, finalement, de cette attente, finalement, de machines infernales à nous faire vivre ou à nous assaillir. Je parle, finalement, de ça. Je me souviens des longues journées que moi, je pouvais passer, en tout cas, au Sénégal, où il n'y avait pas un seul appareil, il n'y avait même pas une radio.
C'était mieux avant.
Oui, mais c'est toujours mieux avant, parce qu'avant, n'existant plus, nous ne sommes plus assaillis par la vie quotidienne d'avant. Elle est derrière, donc elle paraît paisible.
On va remettre, vous savez quoi, Oasis, de la glace dans notre conversation tout à l'heure.
Oui.
Mais avant ça, embarquement immédiat vers notre abécédaire.
S. S comme symphonie de l'enfance.
Je crois savoir que vous êtes fan des symphonies. Si vous deviez composer comme ça au débeauté la petite symphonie de votre enfance, les sons qui sont associés au quartier de Gueultapé face Colovan à Dakar, où vous avez grandi, ce serait quoi ?
Oh ! Alors, curieusement, il y avait un train à vapeur, évidemment, c'est ce que je veux dire. J'habitais dans un quartier, mais très africain, c'est-à-dire avec des petites maisons. Mais curieusement, il y avait un gros train qui passait par là. Mais vraiment, pour un enfant, pour le regard d'un enfant, c'est absolument extraordinaire.
Alors ça se passe dans les années 50.
Oui.
Et puis un peu plus tard, dans les années 70, vous allez avoir une première émotion vocale. Cette voix incroyable est celle d'une diva, hein, mais alors en même temps, vous allez nous la présenter, qui n'est là, mais il y a des milliers de belles voix, j'imagine, au Sénégal. Qu'est-ce qu'elle a de particulier ?
Mais c'est-à-dire que, en fait, il y a des personnes, des musiciens, des femmes, des voix qui portent encore le Sénégal vraiment des origines. C'est-à-dire que cette mélodie, ces mélodies extraordinairement profondes et ces rythmes aussi, qui sont des rythmes moi, que j'ai retrouvés dans les mantras, par exemple bouddhistes, ces rythmes en 6-8 un peu, les musiciens savent ce que je veux dire, c'est-à-dire que ce sont des cycles en boucle et c'est extraordinaire. Souvent, je me pose la question finalement, d'où ça vient finalement ? On a des rythmes à trois temps qui viennent de certains pays comme l'Argentine ou des trucs comme ça. Mais comment ça se fait dans certaines régions d'Afrique, en tout cas, surtout au Sénégal, il y a cette obsession du 6-8. Et ce sont des rythmes absolument apaisants. Le sabar, c'est un rythme absolument extraordinaire. C'est-à-dire, c'est un rythme, finalement, d'ailleurs, dans la thérapie musicale au Sénégal, c'est ce rythme qu'on joue pour mettre les gens qui sont perturbés dans le sens un peu de la marche de l'univers. C'est-à-dire que les gens qui sont sortis du battement fondamental du cœur, par exemple, on leur joue ce rythme-là pendant une semaine, suivant finalement le mal. Et on se rend compte, au bout de la cérémonie, il retrouve vraiment la tranquillité. Et donc voilà, c'est toute cette association de ces rythmes-là, menée par des voix comme la voix de Kinélam, qui est une diva absolument extraordinaire.
Elle avait une sœur aveugle, hein, j'ai regardé un peu son histoire. Elle avait un père qui lui écrivait ses textes, et puis un oncle qui était son batteur de tam-tam, et, et une cousine choriste, donc pour dire que la musique était vraiment une entreprise familiale. Est-ce que Monsieur Diop, votre père à vous, Oasis, était prêt à, on va dire, encourager vos intuitions musicales?
Ah non, pas du tout. C'est-à-dire que c'est un peu comme l'Angleterre, l'Afrique. C'est un peu un système de caste. Il y a une pyramide qui existe un peu moins aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus de griots. Parce que les griots, bon, de toute façon, le griotage, ce n'est pas une race. C'est-à-dire, c'est tout simplement appartenir à une famille d'artistes. Et curieusement, en Afrique, les artistes n'étaient pas forcément bien vus. Donc,
Votre père à vous, alors, très
mon
traditionnaliste.
Père à moi, en réalité, c'était un traditionnaliste, donc il n'aimait pas déjà la musique. Pour mon père, la musique était une sorte de déviation.
C'était un imam, votre père ?
Il n'a pas été qu'imam, c'était vraiment un traditionnaliste d'abord. Mon père appartient à cette Afrique un peu, comment dire encore, où plein de religions, finalement, se mélangent. Évidemment, l'islam, c'est ce que l'on voit. Mais secrètement, les Sénégalais sont restés animistes, etc., etc.
Mais alors, votre père n'a pas eu de chance, parce que non seulement il a eu un fils musicien, mais il a eu un autre cinéaste. Comment est-ce qu'il a accueilli le désir artistique de ses deux fils ?
Avec beaucoup d'angoisse, beaucoup de déception, sincèrement. Vous savez, nos parents adorent quand on prend évidemment les chemins de l'école et qu'on finit au bureau. L'art appartient à des gens qui ont peut-être échoué dans la vie. Mais ils n'ont pas tort finalement. L'art, c'est quoi ? L'art, c'est un bricolage peut-être.
Oui, oui.
Mais c'est un bricolage qui trouve son sens.
Exactement. Hein ? Alors il se trouve, Oasis Diop, qu'après Kinélam, vous avez eu une autre émotion musicale.
Mama, don't you treat me wrong. Come and love your daddy all night long, all night long. Hey, hey, all right. See the girl with the diamond ring. She knows how to shake that thing, all right now.
Mélange de gospel, je parle sous votre contrôle bien sûr, de rhythm and blues, d'amour biblique aussi, et puis d'improvisation. Hein, je crois que ce morceau de Ray Charles, il est né à partir d'une improvisation.
Oui, oui.
Ça a été une déflagration pour vous.
Une déflagration, parce que j'avais jamais entendu ça. Et c'était un choc. Et plus tard, j'ai appris que c'était une improvisation. Et je me suis dit, mais en fait, l'improvisation, c'est quoi ? C'est vraiment des moments, finalement, de presque d'illumination, où tout d'un coup, on a accès à des choses, à des secrets, en réalité.
Des secrets de nous-mêmes.
Oui, oui, c'est des moments d'éveil. Tout d'un coup, nous sommes traversés par quelque chose d'absolument profond. Et quelques secondes ou quelques minutes plus tard, l'effet, justement, de cette traversée reste. En réalité, on ne sait plus comment c'est arrivé.
Alors, après avoir été bouleversé, après avoir beaucoup écouté, vous avez à votre tour joué. African Cosmos, c'est le nom de votre premier groupe, Oasis Diop. Dans quelle cosmogonie musicale plaignez-vous ?
Mais j'écoute cette guitare qui était mon instrument quand j'étais petit. Et d'ailleurs, je me pose la question, comment j'ai fait pour jouer ? Et puis en plus, on l'a fait à une période où l'art était quelque chose, en tout cas chez nous, qui appartenait encore au monde des parias, au monde des hors la loi, au monde de ceux qui sortaient la nuit. Parce que l'Afrique a une relation avec la nuit extraordinaire.
Ce qui est très étonnant, c'est qu'on n'a pas du tout cette image-là de l'Afrique des années 70. Là, on est dans une Afrique rock. Il faut peut-être dire qu'à l'origine de cette humeur psychédélique avec ce groupe-là, il y a un sentiment chez vous, celui d'être orphelin, parce que Jimi Hendrix vient de mourir.
Mais oui, Jimi Hendrix venait de mourir après avoir évidemment semé des choses absolument extraordinaires, incommensurables, musicalement parlant, parce que je pense que si Jimi Hendrix avait survécu, la musique d'aujourd'hui aurait été différente, parce qu'il avait une telle influence sur l'avenir de la musique. Et ça s'est arrêté. Mais simplement, pour revenir à West African Cosmos, nous on voulait, en fait, les Africains avaient l'habitude vraiment de faire des musiques rythmées. Et nous, on voulait faire, c'est pour ça d'ailleurs que notre groupe s'appelait West African Cosmos, c'est-à-dire nous introduire dans un monde musical spirituel qui n'est pas fait que de rythme, mais qui est fait aussi
d'élévation.
D'élévation, oui, merci. Et puis de sentiments de recherche intérieure.
Oui, vous étiez, on va dire, sur le chemin déjà de la quête. Pour quelle raison, quelques années après, vous prenez votre baluchon direction la France?
Pour parler sincèrement, les Africains sont fondamentalement des enfants du voyage. Les Africains ne vont pas en Occident forcément pour trouver du travail.
Moi, je parle de vous, Aziz Diop.
Oui.
Peut-être que vous contenez tous les Africains en vous, je ne sais pas.
Oui,
mais en tout cas, avec cette intuition musicale qui était la vôtre, c'est-à-dire que vous étiez en quête d'un laboratoire peut-être musical, quelque chose comme ça, vous n'aviez pas les moyens dans ce Sénégal des années 70-80 d'accoucher de ce projet?
Pour parler sincèrement, je ne suis pas parti pour la musique. Je suis parti pour des rêves. Parce que le voyage, c'est quelque chose d'essentiel pour les humains qui ont envie d'explorer leur propre cas intérieur. Après, évidemment, les ambitions, enfin, si on peut appeler ça ambition, les désirs, par exemple, de travail, de musique, de choix, de métier, viennent après.
Suivront pour vous les studios forcément enfumés de la Jamaïque, la route londonienne du producteur de Shadé, un certain Robin Millar, une rencontre apparemment fascinée avec le pays du soleil levant, on y reviendra sûrement, et puis un coup de foudre avec les Talking Heads, ces New-Yorkais qui mariaient magnifiquement rock et world music. Once in a lifetime, deux versions pour un seul majeur, sinon rien.
You may find yourself shotgun shack, and you may find yourself in another part of the world, and you may find yourself behind the wheel of a large automobile, and you may find yourself in a beautiful house with a beautiful wife, and you may ask yourself,
I'm a man.
Alors, quand on sait l'ADN de cette chanson des Talking Heads, c'est vrai qu'on n'est pas très étonné finalement que vous vous soyez réapproprié la chose, Oasis Diop.
Oui, parce que en fait, quand j'ai écouté la première fois d'ailleurs ce titre, c'est encore une sorte de rendez-vous avec le temps, rendez-vous avec le futur. Quand j'ai écouté Once in a Lifetime des Talking Heads, vraiment, je me suis retrouvé dans mon enfance. C'est-à-dire. Ces cérémonies nocturnes qu'on appelait les tanneberg, par exemple. Le ber, c'est un fruit, tanne, c'est choisir. Où les femmes étaient habillées en boubou de soirée. Et c'est là où les hommes chantaient. Parce que dans nos traditions, en fait, les hommes, beaucoup de Sénégalais ne le savent pas, chantaient surtout la nuit. Et Once in a Lifetime, dans sa musicalité, me mettait en transe. Ça me rappelait exactement les situations.
Il faut dire que cette chanson a été produite par un certain Brian Eno.
Mais oui, c'est ça qui est extraordinaire dans le monde.
Inspiré par les rythmes de Fela himself.
Oui, mais aussi le rythme des Gnawa aussi. C'est ça la musique. La musique, en fait, c'est presque une civilisation. Par la musique, finalement, l'humanité devient une humanité. Et parce que nos oreilles n'ont pas de couleur, n'est-ce pas ? Nos oreilles sont des instruments, aussi des récepteurs qui entendent autre chose que nos yeux ne voient.
Alors en tout cas, ces paroles « Once in a Lifetime » de David Byrne ont été, elles, inspirées par des prêches religieux. Il faut réécouter votre version en Wolof, c'est magnifique, des phales « Lou World » qu'on va traduire par
« Fais quelque chose de sûr
voilà. ». Est-ce que votre souhait à vous aussi, Oasis Diop, c'était de marier l'Afrique au monde du rock, au monde du jazz?
Oui, parce qu'en réalité, j'ai toujours pensé que l'Afrique est très avant-gardiste, en fait. Aujourd'hui, les questions, par exemple, du retour des œuvres spoliées, etc., est-ce que ce n'est pas les œuvres qui sont allées dans les bras de sauveurs? Voilà, je me fais l'avocat du diable. Est-ce que ces gens qui ont pris ces choses-là étaient vraiment des voleurs ou est-ce que ces objets mystiques se sont précipités dans leurs bras? Voilà une question extraordinaire que moi je pose et j'ai la liberté de poser ce genre de questions. Si elles étaient restées en Afrique, elles auraient traversé l'épreuve du feu à travers lequel elles auraient disparu. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Et puis, ces objets, par leur valeur, ont tenté certaines personnes à les prendre, à partir avec. Si elles n'avaient aucune valeur personnelle, elles auraient pris. Et donc, j'ai toujours dit à mes amis que finalement, ces objets-là dont on revendique le retour, mais ce sont nos ambassadeurs dans le monde, ce sont des choses qui font rayonner l'Afrique. Mais j'espère tout simplement qu'on aura les possibilités nécessaires à bien les garder.
Est-ce que votre caméra est en marche?
Oui.
Djibril Diop Mambéty.
Alors, caméra en marche. J'ai mes élèves ici. Alors, vous me posez la question de savoir comment on fait du cinéma. C'est ça? Alors, pour faire du cinéma, c'est simple. Il faut fermer les yeux. Est-ce que vous avez fermé les yeux? Alors vous fermez les yeux. Vous voyez des points de lumière. Serrez fort. Les lumières se précisent. Il y a des personnages. Il y a... La vie se crée. La tête fonctionne. Mais pas plus que le cœur. Il y a toute une histoire qui se crée selon la direction du vent que vous voulez, l'histoire se crée. Et puis, on ouvre les yeux, on a une histoire. Faites la même chose. C'est très simple. À chaque fois que vous voulez voir la lumière,
il
faut fermer les yeux.
I comme.
Voilà.
Il était une fois.
Oasis. Est-ce qu'on peut dire que votre regard d'artiste s'est aussi construit avec le 7e art et notamment le regard cinéma de votre frère aîné, cinéaste important, on le sait, Djibril Diop Mambéty, qu'on écoutait.
Ah oui, oui, oui. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours fait des chansons panoramiques.
C'est quoi une chanson panoramique?
C'est une chanson qui est facilement adaptable au cinéma. Parce que ça épouse bien l'écran. Souvent, des chansons de moi se sont retrouvées en générique dans des films. Mais moi, je sais que ce n'est pas par hasard. Parce que vraiment, j'ai une façon de construire. Comme au cinéma, parce que je suis très, très influencé. Pas par mon frère, par moi-même. Parce que le cinéma de mon frère, on le faisait ensemble. C'est-à-dire qu'on a commencé à jouer, à même construire des caméras complètement...
De fortune.
Voilà. Il n'y avait rien dedans.
Mais c'était l'idée de mettre en scène des situations.
Oui, l'idée de mettre en scène... nos vies dans ce Colobane natal qui était un quartier complètement surréaliste. Et je crois que le rêve, en tout cas, de porter la vie à l'écran, au studio de musique, vient de là. Mais je pense que peut-être qu'on a toujours été comme ça. Mais Djibril, c'était déjà un enfant précoce qui avait une imagination absolument extraordinaire. Quand on était petit, mon frère disait que j'étais un génie. Moi, je pensais qu'il disait que j'étais un sorcier.
Un djinn.
Un djinn. Alors, en fait, voilà, c'était moi, le génie. Et pourtant, c'était le vrai génie, c'était lui.
J'invite en tout cas les amoureux de Oasis Diop à réécouter la bande du film Yen. Hein, c'est le deuxième long-métrage de Djibril Diop Mambéty, dont vous avez signé la musique. Donc, il faut imaginer, quand on écoute vos chansons, la poésie de la rue, le portrait des petites gens, un certain cadrage, une dramaturgie, un langage aussi nouveau. C'est ce que recherchait en tout cas votre frère pour le 7e art africain. On va écouter ce que ça donne, version Oasis Diop, avec votre nouvel album intitulé « De la glace dans la gazelle ». Alors évidemment, ça c'est un titre assez énigmatique, très poétique. Est-ce qu'il est aussi politique ?
Il l'est en tout cas... social, ça parle finalement du goût de voyage dont je parlais de la part des Africains qui ne partent pas forcément pour gagner leur vie, mais qui partent parce que le voyage c'est quelque chose de sacré pour eux, ça l'a toujours été. Nous, nous sommes nés dans des espaces de gazelle et de tout le temps on va vers le nord, les pays de glace. La gazelle a besoin d'espace pour courir et la glace a besoin de fondre pour dévaler les montagnes. La rencontre entre la glace et la gazelle.
Entre le nord et le sud, donc.
Entre le nord et le sud. C'est ce fameux dialogue nord-sud que j'appelle moi de mes voeux et qui est un dialogue absolument important.
Compris. Est-ce que vous êtes fasciné ou est-ce que vous êtes critique par rapport à Dubaï, de cette chanson qui s'appelle « Le cimetière des gratte-ciels » ?
En réalité, je ne suis jamais critique, je regarde la réalité. Non, le cimetière des gratte-ciels, c'est amusant parce que j'ai l'impression que Dubaï est un cimetière de gratte-ciel. Parce qu'il faut, pour installer un gratte-ciel, il faut sûrement creuser à 20 000 lieues sous la terre pour pouvoir faire tenir une tour. Et donc, c'est vrai que cet espace ressemble un peu pour moi, évidemment, dans ma vision en cimetière de gratte-ciel. Mais avec tout ce qu'il y a de positif et de négatif. Dubaï, c'est un peu le reflet de nous-mêmes. Hein. C'est vraiment complètement la folie humaine. Hein. C'est tout ce sont finalement l'articulation de nos rêves les plus fous. Je ne porte pas de jugement, mais je pense que dire que c'est un cimetière, c'est intéressant.
Alors, il y a une dimension comme ça, pas que poétique, hein, dans cet album. Il y a effectivement des références très pragmatiques. Vous parlez aussi, par exemple, de la pandémie qu'on traverse toujours et qui vous a inspiré l'histoire d'Âme Lee qui change le pays. Avec cette phrase, entre autres, hein, avec Amélie, tout Somalie là-bas, c'est n'être ami qu'on joue aux ennemis. Peu les Dogons, une fièvre jaune, une peste noire.
Oui, c'est cette histoire dramatique finalement qu'on a héritée d'ailleurs depuis que les murs sont tombés en Libye et que finalement la horde, je ne dirais pas des barbares parce que les humains ne sont pas barbares, les humains sont des humains qui peuvent revenir à la raison. Donc c'est pour ça qu'il ne faut jamais les condamner définitivement. C'est pour ça que je parle finalement de cette peste noire. Cette fièvre jaune, la guerre fratricide entre Dogon et Peul, qui est une catastrophe.
Ça veut dire que vous êtes un observateur toujours rare, discret, hein, on le dit. On vous voit peu, on vous entend peu, mais vous êtes là, un observateur, on va dire, concerné, pour ne pas dire engagé,
oui,
sur ce qui se passe
bien
sur le continent.
Bien sûr. Bon, en même temps, nous avons nos instruments. Et on peut écrire dans des livres, à travers des chansons. Mais c'est dramatique ce qui se passe aujourd'hui dans le Sahel.
Dans la gazelle, c'est un album donc qui voyage entre ici et là-bas, entre aujourd'hui et hier.
Oui.
Pourquoi ce morceau instrumental intitulé Sundiata, Oasis Diop?
Oh, c'est le silence de l'histoire qui entoure Sundiata Keïta, qui est à l'origine de ce grand empire du Mandé, à qui on doit la charte du Mandé. La charte des chasseurs, qui est pour moi en tout cas la mère de la charte des droits de l'homme.
Pas que pour vous, hein, d'ailleurs. On entendait Shirami Dukan dire ça aussi, bien sûr.
Oui, mais. Donc je voulais parler de Sundiata sans parler.
Ah voilà. Ça se passe de commentaires, comme on
ça
dit.
Ça se passe de commentaires.
Mais vous lui faites une place, hein, parce qu'il y a un autre morceau qui est consacré à sa mère Sogolon.
Sogolon, oui.
Rappelez-nous son histoire rapidement.
Sogolon, en fait, c'est une femme extraordinaire. Enfin, c'était d'abord la mère de Sundiata Keïta. Donc c'est une histoire un peu. Parce que l'enfance de Sundiata ressemble un peu à l'enfance aussi d'Alexandre le Grand. Née sans aucun avenir.
Avec un handicap, hein, il faut
dès
dire.
Le départ. Avec un handicap physique et qui défie après le ciel. Donc c'est des histoires absolument magnifiques, mais les mythes en fait fondateurs de l'humanité sont les mêmes, parce que vraiment l'histoire de Sundiata, c'est aussi l'histoire de ces hommes comme Alexandre, comme Samson et comme Hercule. Chacun y apporte évidemment sa poésie, mais Sundiata a vraiment existé, on lui doit vraiment ce grand empire dont je parle dans cet album.
Le Sidi est venu de l'Est, il est venu sur les ailes du vent. Il m'a fallu 3 années et 3 rituels successifs pour commencer à comprendre ce que ça voulait dire. Les gens de Bongo nous ont demandé de demander l'autorisation au renard pâle. Et on a jeté des graines d'arachide sur les tables. Le renard vient manger les graines dans la nuit. Ces pattes qui représentent 4 points impriment la réponse. C'est le renard pâle qui, le larynx arraché et viré, tournoyant et devenant le rhombe, n'a plus aucun autre moyen pour s'exprimer. C'est la première écriture.
Quel moment incroyable dans cet album, Oasis Diop. Pourquoi cet hommage alors à ce réalisateur ethnologue Jean Rouch qui commente le rituel d'Ogon Sigi ?
Oui, mais parce que c'est extraordinaire que ce soit un garçon du 14e arrondissement qui vient nous raconter l'histoire d'Afrique.
Oui, oui.
Et moi, ça m'émeut. Et c'est ça l'universalité, c'est ça le monde finalement qui me fait rêver. C'était le monde de Senghor. Le Festival mondial des arts nègres, finalement, c'était ça. Cette projection, finalement, dans l'inconnu, mais l'inconnu maîtrisé, c'est-à-dire l'inconnu avec des baluchons chargés de substances extraordinaires. C'était ça, le rêve de nos aînés. Et pour moi, Jean Rouch, c'est un de nos pères.
Alors justement, puisque vous venez de prononcer le mot qui fâche, le mot de nègre, un mot de ce premier Festival mondial des arts nègres. Vous souhaitiez, Oasis Diop, faire entendre la voix de Joe Wakam, que vous avez filmé à la toute fin de sa vie. Il était très très malade. Vous l'avez filmé au milieu de ses toiles, au 17 rue Jules Ferry, d'où il a été expulsé, alors qu'il y vivait depuis 40 ans. C'est aussi le titre de votre documentaire. Wakam, c'est une figure emblématique du mouvement Agit Art. On est au début des années 70, avec votre frère d'ailleurs. Un des premiers à avoir critiqué la tournure politique prise par les arts au Sénégal.
La Renaissance donc, disais-je, nous autres, quand l'on n'entendait plus personne évoquer cette question majeure, cher Anta, dans quelle situation était-il ? Il était enfermé. Je peux vous amener jusqu'à l'Iban. La partie qui lui était réservée, oui, comme ça, c'était comme une cellule de prison. Quand il est tombé dans un silence, il lui restait quelques clôtures après le congrès du Caire.
Les ancêtres des Européens actuels, les Latins et les Grecs, qui était arrivé au stade de la lucidité et de la maturité que les philosophes, les savants de l'Antiquité ont tous déposé dans le même sens. Et ils nous ont presque unanimement tous dit que les anciens Égyptiens étaient des nègres. Et les Grecs, à l'apogée de leur civilisation, n'avaient aucun intérêt au 5e siècle, au moment où l'Égypte avait déjà perdu son indépendance sous les Perses, parce que c'est à cette époque que Hérodote a visité l'Égypte. Les Grecs n'avaient aucune raison particulière de nous dire que ces Égyptiens étaient des nègres et que ce sont eux qui leur ont donné tous les éléments de la civilisation.
Nous sommes en pays Lébou et les Lébou ne sont pas arrivés ici par hasard. Nous venons de loin. Nous sommes le taureau. Nous sommes le wallo. Nous sommes le djolof. Nous sommes le Bawol, nous sommes le Kayor, nous sommes le Saloum, nous sommes le Sin. En vérité, nous sommes le Gabou. Nous sommes en clair le Mandé. Nous sommes au-delà, les derniers d'une tribu qui arrive jusqu'à cette partie, ce nez du continent qu'on appelle le continent africain, ici.
« 17 rue Jules Ferry », donc ce documentaire que vous nous avez confié en sol majeur, Oasis Diop, donc avec la voix de Joe Wakam, qui a porté alors finalement quel regard sur ce premier Festival mondial des arts nègres ?
Le regard... extraordinaire, parce que c'était une réunion magnifique avec tous les grands maestros venus des États-Unis. Duke Ellington est lui-même venu avec son grand orchestre au festival. Mark Pesadown sortait d'Off Negro. Il avait traversé les océans pour venir au festival, pensant trouver Orphée à Dakar. Donc c'était extraordinaire comme événement.
Vous regrettez un petit peu qu'il n'y ait pas d'événement à ce... Enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui pour réunir les intellectuels du monde noir, si on peut
il
dire.
Il se passe des micro-choses. Vraiment, chaque pays a sa biennale. Ce sont des micro-activités, mais qui sont importantes. Mais le festival, c'était un engagement vraiment
c'était
politique.
Mondial.
Philosophique, c'était un festival mondial. Et je ne sais pas si c'est par paresse intellectuelle ou par négligence, parce que nous, Africains, nous sommes négligents. Nous allons vers le futur, mais le passé ne nous concerne pas. C'est fou, c'est étonnant. Les Africains, c'est des gens qui foncent. En fait, ce n'est pas du tout des conservateurs. Tu vois. C'est des gens qui sont très près du dernier cri. C'est-à-dire que l'histoire, en réalité, ce n'est pas que ça ne nous intéresse pas, mais ce n'est pas une préoccupation.
Et vous le regrettez ?
Je le regrette un peu, parce que c'est quand même important, comme disait Cher Kanta, il faut savoir d'où on vient.
¿Cuáles son las palabras que solamente puedes decir en tu primer idioma?
Quels sont les mots que vous ne pouvez dire que dans votre langue maternelle?
Pour dire la vérité, quand j'ai des soucis au cœur de Paris, je me mets à bégayer en wolof. Ça veut dire que les mots ne sont pas que des mots, c'est un souffle intérieur, c'est une vérité fondamentale, c'est quelque chose de précieux.
Alors on va terminer sur cette image autour de l'île, puisque vous êtes un homme des îles, à la fois de l'île Saint-Louis au Sénégal et de l'île Saint-Louis à Paris. Pourquoi cet attachement à ces deux îles ?
Ben, c'est le regard que j'ai quand je traverse l'île Saint-Louis, où je vais souvent quand je suis au Sénégal. Je ne vois que de l'eau. Partout où je passe, ça se termine dans le fleuve, toujours, mon regard. Mais j'ai vu qu'à l'île Saint-Louis, c'est exactement la même chose. Quand je prends la rue Saint-Louis en Lille et que je vais du côté de Notre-Dame, je fais la même promenade et je regarde à travers les rues. Et chaque fois, je tombe sur l'eau.
C'est de votre fil d'Ariane, l'eau.
Un tout petit peu. Je suis né au bord de l'eau.
Merci beaucoup, Oasis Diop, de cette traversée intérieure et en sol majeur. Et je signale que ce nouvel album, De la glace dans la gazelle, bah, vous allez le présenter sur scène. Vous allez avoir cette chance. Le 5 février, vous serez au Beaux-Arts à Bruxelles. L'année prochaine, et puis les 7 et 8, 9 février, vous serez et à Dakar et à Saint-Louis. On va se quitter avec un de vos titres de ce nouvel album, Yabon Diop. Justement, est-ce que vous revendiquez bien ce titre Yabon Diop ? Je pose la question au moment où on vient de débaptiser le best-seller d'Agatha Christie, Les Dix Petits Nègres, et au moment où on vit cette tendance un peu politiquement correcte, où au nom de l'antiracisme, on déboulonne, on efface.
Oh, faut pas avoir peur finalement de la présence du passé. Faut regarder le passé comme déjà du passé. Moi, c'est l'histoire finalement de Yabon Banania qui oppose mon ancêtre Djibril Diop Mambété et Senghor. Et Djibril disait que Senghor était tout simplement jaloux. C'est pour ça qu'il voulait arracher ses affiches. Je trouve ça amusant. Et je pense sincèrement, il est bon d'exhumer l'histoire. Pas forcément d'en rire, mais de le regarder avec bienveillance et compréhension.
La guerre est tranchée. Je m'appelle Djibril Diop Mambété. Je suis né dans les pays chauds. J'ai traversé l'Atlantique pour aller faire la guerre en métropole. On se moquait de moi, j'avais les dents trop blanches. Je ne parlais pas français. Je n'avais pas de cornes de Gaulois, j'avais des gris-gris. Mon grand-père m'avait dit, cette fois-ci, mon fils, tes gris-gris ne pourront pas te sauver. Il y avait la pluie, la faim, le bruit des mortiers, le cri des soldats qui se meurent. Je me souviens de mon ami Fabien. Il m'a parlé du bon vin, de la Loire qui me rappelle. Le vin de palme qui pisse un autre sur les marchés de Casamance. La seule chose que je n'aimais pas, c'était le froid la nuit. Je rêvais que les bombes tombent pour réchauffer le tranché. Oh, madame, je vous invite à manger café. Il fait froid ce soir. J'aimais la vie m'aimait d'un amour fou. Un jour, je me suis retrouvé sur une boîte de cacao. Il y avait marqué Yabon. Yabon, bombe. Je me suis reconnu. Je n'arrêtais pas de rigoler en regardant ma photo. Mon secret. J'avais inventé une phrase magique qui allait accompagner tous les enfants du monde pendant leur petit déjeuner. Et quand je pense que Senghor a voulu arracher toutes mes affiches sur les murs de France. Oh, les poètes, j'ai pas reculé devant les balles des ennemis, elles étaient toutes perdues avant d'arriver. Et lui, il va enlever mes affiches. Je suis africain, magicien, musicien. Électricien, tu es le feu, tu es l'orage, la tempête, le déluge. Ton cri de guerre les a fait fuir, il y a bon soldat. Tu es français, américain, congolais, bordelais, Ho Chi Minh te connaît. Un compagnon dans un peloton, face au canon, zéro abandon. Tu aimes le pain, tu aimes le vin, à Beau-les-Bains, t'as des copains. Tu aimes le café, tu aimes la cola, tu aimes les combats, les nanas. Y'a bon soldat. Après un long voyage à travers les rivières, les montagnes, les forêts, les oiseaux vont rentrer en gardant sous le plume des secrets. Africain, magicien, musicien.
Électricien, électricien.
Africain, magicien, musicien.
Électricien.
Je remercierai toujours mon ami Fabien. C'est lui qui m'a appris que mes ancêtres n'étaient pas des Gaulois. Si vous avez besoin de moi, je suis au village.
Yabon Diop, de façon très en sol majeur, émission à réécouter en podcast sur votre application Pure Radio ou bien sur nos réseaux sociaux, Facebook ou Twitter, ou encore derrière votre poste chaque samedi et chaque dimanche à 14h10, temps universel. Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki, Oasis, vous cuisinerez la semaine prochaine au moment où nous serons avec Yoram Lecker. À la semaine prochaine.
Merci beaucoup.
Carrefour de l'Europe.